IDFM Radio, le média valdoisien.
Et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Christophe sur à l'économie en direct. Bonjour Christophe, je bafouille ce matin. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez, c'est l'économie en direct, une émission que vous pouvez écouter les mardis et vendredis de 9h30 à 11h sur IDFM Radio, en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, DAB+ pour toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Aujourd'hui, vendredi 5 avril, centre de soutien scolaire en mathématiques et physique-chimie et solutions d'habitation pour seniors en perte d'autonomie seront les thèmes de notre émission. Et pour en parler, je reçois deux nouveaux invités, Samy Amin. Bonjour Samy.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Chef d'entreprise CEO de la SAM Academy, une école en dehors de l'école et que nous allons découvrir ensemble dans quelques minutes. À vos côtés, Maxence Petit. Bonjour Maxence.
Bonjour.
Fondateur président de Cosima, une solution d'habitation pour les seniors en perte d'autonomie afin de les accompagner dans le bien vieillir et le bien vivre. Une alternative grandissante et dont nous avons hâte d'en savoir plus dans quelques instants. Bienvenue et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est l'économie en direct. C'est l'économie en direct et ce matin, je reçois donc deux invités. Je m'adresse à vous directement, Samy Amin, donc chef d'entreprise CEO de la SAM Academy. Je vous laisse nous raconter votre parcours, Samy.
Avec grand plaisir. Donc, moi, c'est Samy. J'ai une formation ingénieur, standard prépa maths sup maths spé, école d'ingénieur. Et c'est un univers qui donnait pas beaucoup de sens pour moi. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, on fait beaucoup de... je vais vraiment vulgariser, d'ordinateurs, de réunions, de slides, de mails. Et moi, je pensais quand j'étais plus jeune que j'allais construire des fusées et sauver la planète. Donc, il y avait un gros gap et je me suis dit, non, j'aimerais bien faire un métier qui a du sens. Ce que j'avais fait pour financer un peu mes études, c'est donner des cours particuliers et je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais que là, j'avais un créneau, il y avait quelque chose à faire. Je savais pas que c'était vraiment ça, donc je me suis posé devant une feuille et je me suis dit, ok, vers quel métier tu veux aller? Et donc, j'ai tout posé sur une feuille, je me suis mis plusieurs critères et celui qui ressortait tout le temps, c'était l'éducation. C'était D'accord. avoir un impact auprès des jeunes. Voilà comment j'ai commencé.
Mais je crois savoir que vous êtes pilote aussi.
Et aussi, donc j'ai un parcours atypique. Oui. Hein. Mais à la fin d'ingénieur, il fallait que je trouve quelque chose qui avait du sens. J'avais toujours voulu devenir pilote, donc j'ai fait la formation pilote. Puis ensuite, je suis devenu pilote de ligne. Et finalement, il y a eu le Covid, ça a été compliqué. Donc, il a fallu que je rebondisse rapidement. Et c'est là que j'ai eu un impact.
Vous êtes lancé vraiment dans ce domaine.
Voilà.
Alors, expliquez-nous comment on crée une SAM Academy.
Alors, comment on crée une SAM Academy? Déjà, ça commence tout seul. J'ai donné des cours à la maison, à domicile, par un élève, puis deux, puis trois, puis j'ai mutualisé les classes. Et ce que je voulais, c'était surtout pas reproduire ce qui marchait pas à l'école. Ça marche pas à l'école, oui. On vient poser votre stylo, on commence.
C'est ça.
Donc, en réalité, les cours de mathématiques, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est de donner de la reconnaissance à l'enfant, c'est de le motiver, c'est de l'accompagner, c'est de l'aider à mûrir.
Donner envie d'aimer les maths.
Exactement, c'est de lui donner envie. Ça coûte cher. Ça a pas de prix en réalité. Et donc, j'ai commencé par faire des petites sessions coaching à la maison pour les inspirer, les motiver. Beaucoup d'enfants manque de reconnaissance. Et en réalité, la reconnaissance, c'est l'élément déclencheur de dire « Mais tu sais que t'es un génie ? Est-ce que tu sais que là, tu vas tout cartonner ?» Et l'enfant, je vais vous donner un exemple. J'ai reçu un enfant, je lui ai demandé « Écoute, comment ça se passe ?» Il était avec sa mère et il lui a dit et je lui ai dit « Donc c'est comment lui ?» Il s'appelait Emeric, je donne son prénom.
Oui.
« C'est comment Emeric à l'école ?» Et sa mère a dit « C'est une merde. » devant lui. Donc moi je suis mal à l'aise, excusez-moi pour, excusez-moi pour le langage. Je lui dis OK,
oui,
mais Aymeric,
qu'il faut pas faire.
Mais Aymeric, toi comment tu te sens à l'école? Elle fait, mais il est nul partout. Et vous voyez, c'est-à-dire que déjà c'est pas lui qui a parlé, mais ça en dit long sur les traitements psychologiques qu'il reçoit. Et quelqu'un à qui on dit ça, bah il pense qu'il est ça. Et donc la Sam Academy, elle vient essayer en tout cas de contrecarrer, de prendre ça à contre-pied et de dire, est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais un génie? Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais incroyable? Et je fais ça toute la journée. Et donc cet enfant, ces professeurs aujourd'hui qui sont des coachs, donc que je ne veux pas professeur, mais qui sont vraiment des coachs, qui ont cette psychologie, qui ont ce mental, ils passent vraiment au moins un tiers de leur temps à leur dire, je suis avec vous, je vais pas vous lâcher, vous êtes des génies, on est ensemble. C'est pas parce que t'as des mauvais, c'est juste parce qu'il faut que tu installes ça dans ta tête, que tu mûrisses, que tu prennes le déclic. Voilà, on essaie d'être un déclencheur de déclic. Voilà, c'est ça le concept.
Oui, c'est magnifique.
Bah, on essaye en tout cas.
Et donc, parce que forcément, les cours que vous donnez, ce sont des enfants, enfin des jeunes qui sont mauvais en maths et même qui n'aiment pas les maths. C'est tout l'enjeu.
C'est notre cible. Nous, on ne veut pas donner des cours à des gens.
On ne donne pas des cours à ceux qui sont bons en maths.
Bah, il y en a qui veulent préparer des grandes écoles, mais globalement, c'est des gens qui sont un peu déconnectés de l'école, qui ont des très mauvais résultats. Et pour vous donner un chiffre phare, l'année dernière, et je sais qu'on n'a pas que des bons élèves, l'année dernière, on a eu 100% de réussite au brevet et au bac. Et on est très fiers des résultats qui sortent de la SAM Academy. Aujourd'hui, on donne des cours de la 6e à la maths P.
Tous
les élèves de classe préparatoire qui m'entendent et qui savent comment c'est difficile, comment on décroche, on a des professeurs, notamment 4 professeurs de l'école polytechnique, donc qui sont quand même l'élite.
Le top.
Ils savent accompagner, parler. Donc on a réfléchi à tout ce concept-là ensemble pour amener à une formule qui parle à tout le monde. Donc c'est vraiment pas dupliquer ce qui marche pas à l'école, c'est vraiment pas de venir dans une classe et de se dire OK, donc toi t'en es où, t'as rien compris, je vous refais le cours au tableau. Non, c'est pas ça. C'est d'essayer de s'adapter. Notre slogan, c'est votre enfant est unique, notre coaching aussi.
Très bien. Oui, une belle formule. Alors donc vous décidez, alors vous accumulez les cours particuliers et puis vous prenez cette décision d'en faire une institution.
C'est ça.
Donc financièrement, comment faites-vous?
C'est difficile. Oui. C'est très difficile. Donc je continue à donner des cours. Ce que je fais, c'est que je continue à faire ingénieur à côté en freelance pour pouvoir financer tout
vous
ça.
Vous êtes ingénieur dans quelle discipline?
En IT, en finance. D'accord. Donc en informatique, dans le milieu de la finance. Et donc je mets un peu tout ce que j'ai en essayant de monter un centre, mais c'est compliqué parce que, en fait, ça, ce que je vous ai dit là, c'est la théorie. Dans la pratique, faut gérer les enfants où les notes, elles remontent pas, faut gérer les parents difficiles, faut gérer peut-être même des fois des enfants qui ont un contexte familial, amical très compliqué. Et du coup, il vient à l'école, il a pas envie, il vous parle pas de ses problèmes. Des fois, il en parle. Des fois, on entend des environnements très sombres. Alors, pour vous donner un peu de contexte, quand j'étais dans cette période entre ingénieur et pilote, je suis devenu professeur contractuel.
D'accord.
Donc, quand vous avez un diplôme d'ingénieur, vous pouvez être contractuel pour l'académie, en l'occurrence l'académie de Créteil. Et donc, j'ai enseigné à Saint-Denis dans les établissements les plus difficiles de France. REP+, j'ai eu des classes de migrants, de la 6e à 18 ans, ils sont dans la même classe. Il y a des contrôles qui sont faits. Bon, autant vous dire que j'ai vu cet envers du décor.
C'est ça
aussi qui m'a motivé à faire professeur. Et du coup, aujourd'hui, alors je fais peut-être une petite parenthèse, mais en fait, quand on voit un élève, des fois très difficile, entre nous, entre professeurs, relou, on voit un enfant qui est très rebelle, on sait souvent le contexte qu'il y a derrière. Et en fait, c'est ça aussi.
Arriver à avoir la psychologie de comprendre l'enfant.
Comment t'en es arrivé là? Je vais vous donner une petite anecdote assez incroyable. J'étais dans un établissement très compliqué de Saint-Denis. Il y avait un enfant qui est très difficile, très 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 difficile. On va l'appeler Kevin. Il était très dur, ce petit. Et donc je parle avec sa mère et je lui dis, j'arrive pas en classe. Il sème la terreur dans le collège. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et donc elle commence à lui faire le serment. Et là, il se met à pleurer et il dit, mais pourquoi moi j'ai pas le droit d'avoir un lit? Pourquoi tout le monde a un lit et moi j'ai pas le droit d'avoir un lit?
Oui, oui.
Et en fait, ils étaient 9 dans la même pièce. Il avait jamais eu de lit. Donc, bah, ils retranscrivaient ça à l'école. Donc, en fait, ça nous amène à prendre beaucoup de recul envers les enfants. Un enfant, c'est innocent. Un enfant, c'est gentil. Un enfant, ça a souvent un contexte et un cadre. C'est pur. C'est un enfant. Donc, maintenant, quand je le vois, j'ai plus de peine. Et c'est pour ça que je lui dis, je sais que t'es difficile, mais on va pas te lâcher. On est ensemble dans cette, voilà, c'est ça le concept.
C'est ça. Vous mettez une dimension, humaniste dans vos cours. Et
c'est l'objectif.
C'est énorme. C'est énorme. Merci Samy pour cette
Merci
présentation. Je vous propose qu'on fasse une pause et on reprend cet entretien tout de suite après. À tout de suite.
Donnez-moi un peu d'air. Mais j'ai fermé la fenêtre.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin.
Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins.
Ok.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, je crois bien.
Ok.
Droit dans le mur, on continue de foncer. Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait. Je vous en veux, vous qui étiez avant nous.
Ok.
D'avoir pas fait grand-chose pour éviter le trou. On cherche des excuses quand la terre se désole. Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer.
Ok.
J'enfile un casque VR pour prendre l'air.
Ok.
On fonce dans le fossé à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans.
Un boomerang dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent.
Les trop tard quand les taux se resserrent.
Si c'est pas rien de le dire,
alors c'est quoi de le faire? Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux.
À la fin, qui restera debout?
On espère que la génération future fera mieux.
Mais celle d'avant
espérait pareil de nous.
Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et c'est pas rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Mais j'ai fermé la fenêtre.
Et ça c'est rien de le dire.
Tout va dans la tête.
Tu vas pas mourir de rire.
Je comprendrai peut-être.
Et c'est pas rien de le dire.
Ah, t'avais raison.
Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et ça c'est rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Et j'ai fermé la fenêtre.
Il faut que tu respires.
Tout va dans la tête.
Il faut que tu respires.
Je comprendrai peut-être.
Il faut que tu respires.
Ah, t'avais raison.
On se retrouve sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct et ce matin je reçois deux créateurs d'entreprises, Samy Amine, chef d'entreprise CEO de la SAM Academy et Maxence Petit, fondateur président de Cosima. Alors Samy, on vient de découvrir tout votre côté humaniste hein, pour créer ces cours de maths. Ça va au-delà du fait de faire que vos élèves apprennent les maths. Je voulais demander à Maxence, vous étiez bon en maths, Maxence ?
C'était pas ma matière préférée, pour être très franc.
Mais oui, ça vous intéressait pas en fait, probablement.
Alors, L'arithmétique, si. Oui. Tout ce qui était géométrie, etc., la trigonométrie, tout ça, c'était pas très concret pour moi. J'avais un peu de mal à projeter ça dans ma vie future. Et je suis un grand pragmatique, peut-être trop. Donc j'avais un petit peu de mal à voir où est-ce que ça m'amenait.
C'est ça. Bon, la preuve aussi qu'on peut s'en sortir sans les maths, hein, bien sûr, mais...
Ouais, alors c'est quand même bien d'en comprendre les concepts, particulièrement quand on veut gérer une boîte. C'est quand même très important de... Et en fait, au-delà de ça, je pense que les maths, particulièrement lorsqu'elles sont enseignées aussi bien au collège, lycée qu'en prépa, c'est surtout structurant pour l'esprit.
Bien sûr.
Et c'est pas tant le fait de savoir si on va pouvoir utiliser Pythagore dans sa vie future. C'est plus la structure intellectuelle que ça apporte.
Complètement, que ça, c'est avoir une tête bien faite.
Et puis ensuite, il y a quand même toute une partie de comptabilité, gestion. Ensuite, lorsqu'on crée une entreprise, alors même si je suis très largement aidé sur ces sujets-là, parce que c'est encore une fois, c'est pas mon cœur de métier, mais c'est important d'en comprendre les principes. Ne serait-ce que pour pouvoir challenger aussi sa direction financière.
Par exemple. Merci Maxence Petit pour ce témoignage. Donc Samy, on en était au fait que vous avez, il fallait trouver des financements pour faire évoluer votre concept. Donc comment avez-vous procédé ?
Donc j'ai commencé tout seul, j'ai commencé à louer des bureaux. Au début, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Des fois même, les élèves, ils ne viennent pas.
Ah oui.
Donc vous payez les bureaux, il n'y a personne. Vous payez, j'ai voulu en prendre des professeurs, mais vous les payez, il n'y a pas d'élèves.
Oui.
Donc dans toutes les problématiques, les problématiques que vous rencontrez quand vous montez une société. Mais en réalité, toutes ces problématiques dont je parle, dans quel que soit le domaine, vous allez les avoir.
Peu importe l'activité.
Peu importe l'activité, ce qui fait qu'une entreprise elle marche, c'est nous. C'est ce que je me suis rendu compte, que ce qui changeait, c'était moi. Moi, j'étais en train de changer, j'étais en train d'apprendre à gérer des salles vides, des professeurs qu'il fallait payer, comme il est en train de dire Maxence, de la comptabilité, de l'optimisation. Et en fait, c'est moi qui ai changé. Et donc petit à petit,
vous êtes adapté à la situation.
Je me suis adapté. Mon argent qui était en train d'être jeté par la fenêtre, il était en train d'être investi sur moi. Et puis j'ai appris à avoir 5 élèves, puis 7, puis 10, puis 20, puis 100. Voilà comment.
Faire peut-être des contrats pour obliger les élèves à venir.
Ça. On a fait un système d'abonnement, alors très particulier. On a fait un abonnement un peu comme une salle de musculation. C'est-à-dire que vous avez un abonnement mensuel, et puis vous voulez venir. Alors là, surtout à partir du centre qu'on va monter à Deuil, si vous voulez venir 10 heures, vous venez 10 heures. Vous voulez venir 2 heures, vous venez 2 heures. Donc vous payez vous pour l'équivalent de 2 heures de cours, mais vous avez des salles dans lesquelles tournent des coachs, des professeurs, et vous pouvez venir autant de fois que vous voulez. Donc c'est à consommation, à volonté, en fonction de la demande.
Et vous n'avez pas cherché des aides de subvention ou autre, puisque vous aviez quand même un côté d'intérêt général.
J'ai pas cherché, parce qu'en fait je me suis dit au début qu'il fallait que j'apprenne à faire marcher ça tout seul.
Libre.
Voilà, c'est ça. Il fallait que ça marche. Et donc là cette année, j'ai cherché justement à avoir où la mairie de Deuil-la-Barre, elle m'a aidé à avoir ce local. Je pense que c'est un des axes d'amélioration sur lequel il faut que je me développe, les subventions, les financements. Donc si jamais je veux grandir, il va falloir que je passe
par là. Bien sûr. Donc aujourd'hui, vous avez ce lieu à Deuil, mais je crois que vous en avez un autre.
Il y en a un autre à Créteil, exactement. Oui. Il y en a un autre à Créteil, rue
Charles. Donc vous gérez les deux, donc c'est un peu aux antipodes physiquement. Mais
c'est
fait.
Voilà. Donc après, j'ai mis un responsable. Oui. On gère ça. Et puis ma vraie plus-value, c'est les professeurs, les maintenir en coach, faire du. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on coach des profs. On coach des profs afin qu'ils aient la bonne énergie, la bonne mentalité, le bon mindset, le suivi pour les parents. C'est surtout ça. C'est surtout ça ma plus-value.
Et donc comment vous les trouvez, ces professeurs ? Parce que c'est pas simple aussi.
C'est pas simple. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, déjà il faut trouver un professeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui soit professeur ou qui soit diplômé d'une grande école d'ingénieur, ça c'est le premier point. Donc pas d'étudiant, c'est vraiment central. Et ensuite il faut qu'il ait cette notion d'enseignement dynamique, de pédagogie, parce que il y a des très bons professeurs mais ils matchent pas du tout avec
le concept. Mais c'est pas donné à tout le monde ça d'arriver à se à se mettre en phase avec l'élève.
C'est très difficile. On a des gens qui maîtrisent très bien les notions mathématiques, mais qui transmettent très peu d'énergie. On a besoin de gens jeunes et dynamiques, qui transmettent beaucoup d'énergie et qui soient très empathiques. Et ça, c'est pas facile à trouver. Mmh. Puis après, dès que vous l'avez trouvé, il faut l'adapter au concept du coaching. Mmh. Parce que c'est pas facile de gérer plusieurs élèves, mmh. des fois qui font des niveaux différents. Donc nous, c'est des classes de 5 élèves maximum. Mais même déjà, vous avez un élève qui fait les vecteurs, un élève qui fait les asymptotes, faut y aller. Donc, il faut quelqu'un qui soit, c'est un peu difficile, ça demande beaucoup de travail de mon côté, de son côté aussi, mais ça se trouve, et il y a des gens incroyables, bien meilleurs que moi qui font ça, et honnêtement, je suis une petite dédicace à mes professeurs, je suis très fier de leur travail.
Mais donc ces professeurs, ce sont des cours, parce que les cours, vous les donnez quand, à quel moment?
Alors
C'est
en dehors de l'école, tout à fait. On ne se substitue pas à l'école, on est vraiment en complémentaire. Oui. Mmh. C'est en dehors de l'école, toute la semaine, le soir et tout le week-end, de 10h à 10h, tout le samedi, tout le dimanche.
D'accord.
Voilà, globalement.
Oui, le dimanche aussi.
Il y a beaucoup d'élèves qui sont très pris la semaine, le samedi, qui ont beaucoup d'activités, donc on est ouvert le dimanche toute la journée. D'ailleurs, la grosse part de notre activité, elle se fait le samedi et le dimanche. Mmh. J'irais peut-être 70%.
Alors, au niveau des coûts de ces cours, le fait que ce soit le dimanche, puisque c'est un jour férié, donc oui. Vous êtes obligé de payer vos professeurs plus.
Tout à fait. Donc, je lisse les augmentations dans les forfaits mensuels pour qu'on puisse s'y retrouver. Mmh. Mais globalement, comme c'est des prix de lancement, là-bas, on est vraiment très peu cher. Oui. Je peux même donner des prix.
Oui, allez-y.
Aujourd'hui, on est à 16€ de l'heure. Donc, ça fait des abonnements à 129€ par mois. Mmh. Et tous ceux qui veulent s'inscrire là cette année, bah, profitez-en parce qu'à partir de septembre, tous les prix augmentent puisqu'on va aller sur une structure beaucoup plus importante et on va ouvrir davantage de matière, couvrir davantage de niveaux.
C'est ça, vous allez au-delà des maths et
de la physique-chimie, c'est ça. Oui, on va ouvrir en anglais, en français. On va sûrement faire prépa médecine aussi pour ceux qui veulent. Voilà, vous en parliez en off, mais
c'est un peu tard pour moi.
Ouais, on sait jamais. Non, c'est peut-être il est jamais trop tard. Là, véridique, ce que je dis, il est jamais trop tard. Quand j'étais en formation pilote, il y avait des gens qui avaient la cinquantaine autour de moi. Oui. Il y en avait qui étaient chirurgiens, il y en avait qui étaient médecins, ils devenaient pilotes. Il y a vraiment pas de règles. En fait, c'est ça ce qui est incroyable. C'est pour ça, c'est ça qu'on transmet. Il y a pas de règles. Mm-hmm. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il y a pas de génie ou la golden génétique comme on l'appelle. C'est des gens qui se sont découverts une passion, et puis qui se sont donnés à fond. Et nous, petite anecdote, j'ai un ancien élève qui s'est mis dès que l'IA est sortie, s'est mis à développer une petite application qui cartonne. Il a 22 ans, il est multimillionnaire.
Ah
et
oui.
Maintenant, c'est moi qui vais le voir. J'excuse-moi, voilà, il me dit non, ton concept, il est mauvais, ton business plan, il est pas bon. Et il a 22 ans.
D'accord.
Vous voyez?
D'accord.
Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et je vous parlais d'un enfant qui n'était pas très, très scolaire. Mais il a eu envie, s'est donné, il a commencé à se dire, bon, bah, je vais faire du développement personnel, je vais regarder comment on monte une boîte, comment gérer la compta. Et aujourd'hui, je le fais intervenir dans les classes et il motive les jeunes.
Bien sûr.
Et c'est pas un cas isolé. C'est-à-dire qu'il y en a. Est-ce que des histoires, je pourrais vous en raconter.
Donc, la vraie pédagogie, c'est de ne pas avoir de pédagogie, quelque part.
La vraie pédagogie, c'est de considérer l'enfant comme quelqu'un de capable, comme quelqu'un, si jamais j'ai le temps, je raconte une dernière anecdote. Je suis arrivé dans un des établissements les plus compliqués de France.
Vous avez le temps, Samy.
D'accord.
Prenez votre temps.
Je suis arrivé dans un des établissements les plus compliqués de France, à Saint-Denis. Pour pas donner le nom de l'établissement quand même, parce que je sais pas si c'est moi. Et je suis arrivé dans une classe, ils avaient pas eu cours de mathématiques depuis longtemps. Je suis parti voir le principal. Donc on a un point, bien évidemment, de synchronisation ensemble. Et je lui ai dit, ouais, vous en faites pas, je vais remonter les notes. Et il m'a dit, en rigolant, déjà, si tu rentres chez toi en pleine forme, c'est déjà très bien.
D'accord.
C'est pour vous dire un petit peu déjà.
Le challenge.
Finalement, je vais dans la classe. Les tables sont retournées, ils sont en train de rapper à voix haute. Donc je leur dis, allez, on va commencer le cours. Puis ils rigolent. Mmh. Ouais, ils rigolent. Il y en a une qui m'insulte. Oh, je vais pas le répéter à la radio, il y a ma maman qui m'écoute. Mmh. Mais il y en a une qui m'insulte. Donc c'est très compliqué. Donc là, il faut réussir à lancer la classe. Et j'ai un élève dans la classe qui est beaucoup plus grand que tout le monde. Mmh. Et beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé. Je dis, ok, est-ce que tu peux m'aider à avoir le calme? Est-ce que tu peux leur demander de se taire? Il me dit pourquoi? Je dis, tous les deux, on va s'arranger. T'inquiète pas. Moi, je vais t'aider. Toi, tu vas m'aider. Est-ce que ça te va? Il me dit d'accord. Il demande le calme dans la classe. Tout le monde se calme. On se pose. Et donc, je lui dis, écoute, en fait, on est dans un établissement REP plus et les notes, elles ont pas vraiment d'importance. On a un petit niveau. Donc, je mets plein d'évaluations qui n'ont pas d'impact réel sur la moyenne, mais qui les aident à se remotiver.
Oui, et
je
lui dis, écoute, reconnaître.
Je vais te mettre des bonnes notes. Ça va t'aider. Toi, tu vas être content. Ta mère, elle va être contente. D'accord. Je commence à lui mettre à des bonnes notes et puis, il aime tellement le fait d'avoir des bonnes notes, bah, qu'il se met à travailler, puis je commence à regarder ses copies. Moi, bon, je lui mets des bonnes notes alors qu'elles valent même pas des bonnes notes, hein.
Oui, oui.
Et, il commence à regarder ses copies. Il me dit, j'ai mon micro qui coupe, je sais pas, c'est normal, ok. Et il me dit, je suis vraiment bon, hein. Et ses notes, elles augmentaient, bah, elles valaient pas ce que je lui mettais, mais elles augmentaient réellement. Et je lui disais, mais tu sais que vraiment tu fais des progrès. Il me dit, mais je sais, je suis trop fort, j'ai tout le temps 20. Je lui dis, non, mais t'es bête, c'est parce qu'on a un arrangement, t'as pas tout le temps 20. Et bah, il s'est mis dans le personnage. Et bah, je vais vous dire, à la fin de l'année, c'est un de mes meilleurs élèves. Ah, ouais. Qu'est-ce que je lui ai donné de plus qu'un autre? Bah, je lui ai donné cette
reconnaissance.
Et ça a commencé par là, c'était mon déclic de la reconnaissance. C'est là où je me suis dit, mais en fait, lui, ce qu'il aimait, c'était simplement avoir des bonnes notes, le vu de la classe. Des fois, il demandait le silence, il le demandait pas. C'est incroyable quand même. Voilà, juste pour que vous compreniez cette notion de transmission.
Oui, alors quelle a été la réaction du proviseur?
Alors le proviseur, en fait, ce qui est très compliqué dans ces établissements, il l'était. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand vous êtes proviseur, il faut pas que les notes elles soient trop bonnes, il faut pas que les notes elles soient trop faibles. Mmh. Donc en fait, c'est très compliqué, hein, parce que du coup, vous avez envie de leur donner cette reconnaissance, cet accompagnement. Si les notes elles sont trop basses, il va vous demander de les réélever. Si elles sont trop élevées, c'est pas normal. Mmh. Donc ça, je comprends. Lui, il a ses contraintes. Moi, j'ai mes contraintes.
Mais il a quand même été agréablement surpris. Il a quand même été bluffé. Vous aviez réussi déjà à tenir la classe.
Il a été bluffé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai continué. Et ça a été très difficile d'ailleurs de quitter cet enseignement, parce qu'au bout d'un moment, vous aimez cette vie-là. Alors, je sais qu'il y a des collègues qui le vivent différemment, pour qui c'est très difficile. Mais si jamais vous avez le profil et puis vous arrivez à vous dire que c'est pas de leur faute, si vous posez un petit peu et que vous parlez avec ces jeunes-là, et je sais que, combien il y a de jeunes en difficulté en France, que ce soit en difficulté scolaire, en difficulté, très souvent c'est lié en difficulté familiale, etc. C'est des jeunes marrants, gentils. C'est vraiment, c'est des jeunes drôles.
Il n'y a pas d'enfants méchants. Ils sont malheureux.
Il y a des enfants qui sont devenus méchants. Et en général, ils essaient de faire vivre quelque chose que eux-mêmes, ils ont subi. Mais si jamais vous arrivez à briser ça, leur dire, tu fais pas peur. Tu vois bien.
Vous avez quel âge, Samy?
J'ai 34 ans.
Parce que je trouve que vous avez une sagesse incroyable.
Non, mais en tout cas, c'est
pas
le domaine.
Maxence, que vous en,
moi,
vous
je
en
suis
pensez
je suis bluffé.
Non,
mais oui, vraiment.
Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve, dans le.
Vous arrivez à faire passer quelque chose.
Samy, il est en mission.
Oui.
Merci beaucoup.
Je trouve ça assez génial. On y reviendra, mais moi, j'ai créé une entreprise qui est une entreprise à mission. C'est un statut particulier, donc je suis très admiratif de cette logique où c'est la réussite des élèves qui passe avant tout. Samy, il est quand même en train de nous expliquer que pour l'instant, c'est financièrement, etc., c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué, mais
Il pourrait être aux commandes d'un avion et prendre 15 000 par mois, et il est en train d'essayer de sauver des élèves que tout le monde a laissé tomber. Donc je trouve ça c'est absolument génial.
Merci Samy. On fait une pause et puis on reprend cette interview passionnante. À tout de suite. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I can't hide, and I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct et ce matin, une interview passionnante déjà pour commencer avec Sami Amin, chef d'entreprise CEO de la SAM Academy. Et je pense que ça sera tout aussi passionnant avec Maxence Petit, fondateur, président de Cosima. D'ailleurs, au passage, ça me permet de dire que chez IDFM, voilà, on a des émissions intergénérationnelles puisque ce matin, on parle de nos jeunes et de nos seniors. Donc, j'en suis ravie. Alors, Sami, vous venez nous expliquer tout votre investissement à créer, enfin à donner du plaisir à apprendre des maths et de la physique chimie. Vous dites que votre histoire débute avec la vision de créer bien plus qu'une simple structure de cours de soutien. Vous voulez aspirer à des guides, des mentors, des facilitateurs d'apprentissage. C'est vraiment votre cœur de métier.
C'est exactement ça.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre enfance et de votre éducation, Sami? Parce que je me doute que ça a forcément eu un impact hein, sur votre façon d'être aujourd'hui.
Moi, j'ai eu une éducation qu'on pourrait qualifier de difficile.
Oui.
Difficile dans le sens où les parents, ils transmettent beaucoup de stress, leur échec, leurs propres angoisses. Moi, j'ai des parents qui sont issus de l'immigration. Donc, pour eux, le mot clé, c'était sécurité, projection, CDI, cravate, costume, chaussures pointues. C'était ça.
Enfin, c'est la fin de mois, fin de mois.
Ouais. Fin de mois confortable, ouais. faire les courses, faire les courses sans regarder, c'est ça. Mm-hmm. Et donc, quand vous grandissez avec ça, l'école, ça passe avant tout. La parole des profs, elle est sacrée. J'ai grandi là-dessus avec beaucoup de... Jamais on s'est posé, on m'a dit, ou peut-être que je l'entendais pas aussi à l'époque, hein, mais jamais on s'est posé en me disant qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que ça va t'apporter, comment tu vas grandir. Moi, c'était qu'est-ce que tu vas devenir, comment tu vas réussir, comment tu vas payer ton loyer. C'était ça les problématiques. Alors que moi, je voulais pas payer mon loyer. Moi, ce que je voulais, c'était, devenir un aventurier,
réussir,
un héros.
Construire des fusées.
Voilà, construire des fusées. On était petits, on est des héros, on a des épées magiques. Moi, c'est ça que je veux dans la vraie vie. Donc, il faut faire attention. Mais bon, ça, c'est un travail que les parents doivent faire, qu'on doit tous faire. Il faut faire très attention à pas trop projeter vos angoisses parce qu'un enfant, lui, il comprend pas vos angoisses. Donc, ce qu'il comprend, c'est énergie négative, école négative. Il fait un blocage, voire même des phobies scolaires. Des enfants on a eu des élèves qui, avant de venir, vomissent avant de monter. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous en arrivez là, vraiment...
Oui, c'est que l'enfant va très très mal. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et celui qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est un oncle qui avait très bien réussi, centralien, tout le parcours ingénieur que vous pouvez imaginer, qui m'a beaucoup accompagné en... Je m'en rappelle encore de ce jour-là, on était en cinquième, il m'a emmené devant un McDonald's à Sarcelles, pour ceux qui connaissent, c'est un quartier un peu difficile, on s'est posé, je comprenais pas pourquoi, pendant au moins une heure, et ensuite il m'a emmené à Paris 16e devant un hôtel prestigieux. Alors moi j'habitais en banlieue parisienne, je connais pas bien, on s'est posé, pareil, émerveillé, chauffeur, et il m'a dit « Ok, tu veux quelle vie ?» Voilà, il m'a dit « Tu veux quelle vie ?» Et ça a été mon déclic, cinquième, pour tous ceux qui me connaissent. Jusqu'en cinquième, il n'y avait pas plus nul que moi. J'étais le dernier et à partir de la quatrième, c'était terminé. Dire qu'à partir de la troisième, j'étais major globalement.
Bravo.
Donc, moi, ça a été mon déclic. Mmh. Et chaque enfant a une perception du déclic différente. Chacun réagit différemment, puis chacun a un parcours différent. Donc, il faut juste essayer de voir ce qui stimule chaque enfant. Et c'est un travail de communication implicite, ça doit pas être trop ouvert parce que sinon ils se braquent. Donc ça doit être un travail de communication, à travers des exercices, du cours et très rapidement cerner un élève. Mais pourquoi là-dessus t'as du mal et rapidement on comprend. Il y a des élèves qui arrivent et qui disent moi je comprends rien parce que leur cerveau, c'est prouvé scientifiquement. Je vous montre une psi de t égale a proportionnel à t. La majorité des gens, leur cerveau il bloque. Ils essayent même pas de comprendre
c'est du chinois.
Alors qu'en réalité, ça veut rien dire. Ça veut dire que la connaissance, elle dépend de l'attention et du temps. Si je vous dis que A c'est l'attention et T c'est le temps, je vous marque attention fois temps, là ça parle aux gens. Donc il faut réussir à faire un travail de déprogrammation de ces virus qui vous disent n'essaye même pas, pour réussir à avoir un enfant qui cherche à comprendre. Ok, mais c'est quoi A? Tu m'as pas expliqué. Ouais, déjà, dès que j'ai un enfant qui me dit c'est quoi A, c'est qu'on est déjà arrivé à un très bon niveau d'analyse. Globalement, c'est ça, c'est de donner simplement les outils pour qu'un enfant, il soit pas ni dans t'es trop fort, mais dans la recherche, l'investigation. T'es quelqu'un qui abandonne jamais, c'est ça que tu m'as prouvé. C'est quelqu'un qui abandonne tout le temps. Mais des fois, à un moment, il va y croire. Il va se dire, c'est vrai que j'abandonne pas, moi. Et donc, ce travail de programmation du cerveau, de se dire, j'abandonne pas, j'ai besoin d'eux, ça marche pas sur tous les élèves. Mais globalement, il y a des élèves qui ont des déclics, il y a des élèves qui se réconcilient avec l'école, et au pire des cas, il y a des élèves qui sont dans un cadre positif, qui se disent, bon, l'école, c'est pas si terrible que ça, les mathématiques, c'est pas si terrible que ça. Mmh. Voilà, ça, c'est pour nos élèves qui ont la réussite la moins importante. Mmh. Au moins, ils sont dans un cadre favorable. Mmh. Voilà, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que mon plus grand échec serait d'avoir des élèves qui, au moins, se disent, je comprends, mais voilà. Mmh. Au moins, il est dedans, il a un peu... Parce qu'il y a des élèves qui ne travaillent jamais.
Oui.
Jamais.
Qui travaillent en cours, mais après, derrière, ils font
même
rien.
Même pas en cours. Jamais. Donc, au moins, vous avez deux heures, là, vous êtes obligé de travailler. Ouais. Vous ne travaillez pas. Si vraiment, vous-même, vous n'avez pas envie, non, on ne vous prend pas. Voilà, donc, nous-mêmes, on fait un casting, on se pose avec l'élève au bout de deux, trois cours. Si vraiment, lui, il n'a pas du tout envie, non, on ne le prend
pas. Vous arrêtez, oui.
Mais en général, quand vous parlez vraiment avec lui, tu dis, laisse-moi ma chance. T'inquiète pas, je sais. Il dit, ok, vas-y.
Oui, vous parlez même de découvrir la beauté des sciences et exceller dans ses études. Ouais. Parce que voilà, quand on est réfractaire, et je sais de quoi je parle aux maths, voilà, dire la beauté des sciences, c'est pas évident.
Alors déjà, qu'on conceptualise pas, se dire les mathématiques, on en parlait avec Maxence tout à l'heure, les mathématiques ça sert à quoi, la physique ça sert à quoi? Oui. Quand vous posez devant un enfant en lui expliquant est-ce que tu sais c'est quoi la deuxième dimension, troisième dimension, voire quatrième dimension, il écoute ce que vous lui dites. Quand vous laissez tomber deux objets à côté de lui, il dit tiens voilà, j'ai une petite bille et j'ai un téléphone, c'est lequel qui va tomber en premier? Déjà vous avez son attention, vous les laissez tomber, ils tombent en même temps. Ah ouais, attends, c'est bizarre, pourtant c'est beaucoup plus petit, mais ça fait le même poids. Bah non, ça fait pas. Voilà, donc là vous avez son attention. Bah voilà, c'est la loi de la physique, c'est la loi des mathématiques, c'est d'essayer de comprendre la loi de Fibonacci, la suite de Fibonacci, et donc l'enfant lui ça il comprend. Dès qu'on a son attention, après on parle de concept. C'est du coaching, du développement, un concept, un peu d'exercice, ça y est stop. Parce que personne peut faire deux heures d'exercice d'affilée, d'asymptote,
c'est, il y a un moment donné, on sature.
On est au collège, on est au lycée, je veux dire qu'on a, on n'a pas envie de faire, oui, mais attends, t'es nul, t'as eu que des mauvaises notes, maintenant tu vas faire six heures d'affilée. Et déjà, il a pas réussi à faire une heure pendant un mois, il va pas faire six heures d'affilée.
Donc, c'est clair.
Mais c'est normal, les parents, ils sont démunis vis-à-vis de ça, qu'ils savent pas comment s'y prendre. C'est pour ça que, on a apporté un concept qui vous donne cette méthodologie-là. On vous donne les clés. Venez même faire. D'ailleurs, la séance d'essai, elle est offerte. Alors qu'on est on est tellement confiant dans le concept.
On va en parler, la séance d'essai, elle est gratuite.
Bon, bah voilà. Donc, je me suis renseigné.
Alors, l'heure tourne. Moi, je crois que je pourrais vous écouter jusqu'à la fin de l'émission, mais il y a Maxence. Donc,
je l'écoute en plus.
Samy, j'ai compris que vous aviez besoin de trouver des professeurs, hein, des enseignants de qualité. Comment vous y prenez-vous? Est-ce que vous voulez lancer un appel si vous avez besoin de recruter?
Alors, professeurs, tout à fait. Donc, nous, on prend des professeurs qui sont professeurs titulaires ou agrégés et des professeurs diplômés d'école d'ingénieurs, enfin, des anciens ingénieurs qui sont pour beaucoup reconvertis ou pas d'ailleurs, mais qui connaissent bien les programmes. De toute façon, on fait un test, on fait des tests et puis de l'accompagnement à l'entrée. Et puis même on a des ingénieurs qui ont envie de mettre un pied dans l'éducation, qui ont aussi cette vocation d'aider les plus jeunes ou de transmettre ce qu'ils ont appris durant leurs années. Même si vous avez envie d'enseigner, de mettre un pied là-dedans, bien évidemment en connaissant les programmes, en ayant enseigné déjà dans le privé ou dans le public, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais pas si je peux donner le numéro.
Bien sûr.
Le 07 68 20 75 30.
Oui, des coordonnées qui se retrouveront bien évidemment sur le podcast. Est-ce que parce que les organismes mandataires dédiés à l'intermédiation entre les enseignants offreurs et les élèves demandeurs se sont multipliés, et puis mais avec l'appui justement de politiques d'incitation fiscale, est-ce que c'est le cas?
Alors c'est le cas et c'est pas le cas. En fait, dans un centre physique, Vous avez, il y a pas de crédit d'impôt. C'est uniquement pour les cours portés à domicile.
D'accord.
Donc
d'accord.
Donc nous, dans, si jamais vous venez sur le centre physique, en l'occurrence on le fait pas, mais c'est aussi pour ça qu'on a pris, qu'on a des prix qui sont deux voire 2,5 fois plus bas que les prix du marché.
C'est ça. Le crédit d'impôt, c'est quand ça rejoint le service à la personne, j'imagine.
Ouais, enfin, c'est, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais par contre, c'est du service à la personne à domicile.
Est-ce que vous êtes en lien avec le lycée Gilles de Gennes?
Non.
Non, non, parce que je connais bien sa proviseur.
C'est vrai. Ce sera l'occasion d'être en lien maintenant.
Oui, absolument. Donc, vos besoins aujourd'hui, c'est des nouveaux élèves, des nouveaux professeurs?
Tout à fait. Donc, nouveaux professeurs, nouveaux élèves. Alors, professeurs, je dirais qu'on a un peu moins besoin parce qu'on a une équipe solide. Mais bon, ça va venir avec la croissance. Par contre, nouveaux élèves, on sera jamais assez nombreux à vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à la SAM Academy. Aujourd'hui, on a Deuil-la-Barre. Demain, on sera à Deuil-la-Barre, mais juste à côté. Donc, en partenariat, ou en tout cas, avec des locaux aidés par la mairie de Deuil-la-Barre. On en sera en partenariat avec eux. On a beaucoup d'élèves du lycée de Notre-Dame, Monod, Gustave Monod, Camille Saint-Saëns, d'Épinay, on en a même des élèves qui viennent de Créteil pour venir jusqu'à Deuil, alors qu'on a un centre à Créteil, mais qu'on a l'habitude avec nos professeurs, avec moi en l'occurrence qui suis deuillois. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, c'est le même numéro de téléphone, mais si vous tapez SAM Academy sur Internet, vous allez nous trouver directement.
Et aussi, des cours en e-learning. Hein.
C'est ça. En fait, on a fait une plateforme digitale. En fait, pour conclure, on a trois axes. Je me suis dit qu'aujourd'hui on était au monde du digital et il fallait à la fois du digital, à la fois du physique. Des cours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des centres physiques dans lesquels on prend le relais aussi avec une plateforme digitale qui couvre tout, cours, exercices, QCM, avec une petite jauge de barre d'expérience que vous gagnez à chaque fois que vous faites des cours pour monter de niveau. Ce côté un peu jeu vidéo.
On se voit, progresser. Ouais.
Voilà. Donc, dès que vous êtes niveau 20, ça y est, vous maîtrisez tout, vous pouvez aller au contrôle, vous êtes, finger in the nose, comme on dit, donc les doigts dans le nez. Donc, on a des cours physiques, on a, la plateforme digitale, et sur place, vous avez des mentors, des coachs qui vous accompagnez, on a même une responsable de centre qui, a fait des études de psychologie, donc qui accompagne les jeunes là-dessus, et très souvent, c'est pour des problèmes un peu plus lourds, mais dès qu'ils se confient, dès qu'ils ont parlé, avec tout le secret qui lui est dû, dès qu'ils se sont confiés, en général, ils sont beaucoup plus enclins à venir en cours. Donc, j'ai vraiment essayé de laisser ces trois aspects. Et il y en a un dernier que je vais rajouter parce que je m'en suis rendu compte cette année, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas d'amis. Je vous dis, c'est je les vois et puis je dis, mais t'es tout seul, mais t'as pas des amis que tu veux, avec lesquels tu veux travailler? Non, j'ai pas d'amis. Et donc ils viennent à la SAM Academy, donc on a des petits points en général où on mange un gâteau, où on se pose. Et puis ça crée des liens parce que vous vous sentez pas jugé, parce que tout le monde sait que vous avez quelqu'un fait une vidéo de vous, s'est moqué de vous, vous êtes pas dans les mêmes établissements. Donc il y a une petite notion fraternelle qui se crée là-bas et je me suis dit ça va être quelque chose que je vais développer. Donc là je suis en train d'organiser des sessions où obligatoirement entre les cours on va prendre 5 minutes pour aller se poser, boire un coup, manger quelque chose et que les élèves puissent faire connaissance les uns avec les autres.
Bravo Samy, c'est magnifique. J'imagine que vous avez aucun problème à convaincre des communes pour vous accueillir parce que la méthode est tellement engageante. Merci pour pour ce témoignage et puis de prendre en charge nos jeunes et leur donner le goût des maths et de la physique chimie, mais pas que, puisqu'on a compris que vous alliez déployer vos cours
matières,
dans d'autres matières. Voilà, merci à vous.
Merci à vous, IDFM.
Merci. Avant de continuer, je vous propose de marquer une pause et puis on se retrouve, on retrouve Maxence Pessis dans quelques minutes. À tout de suite.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait.
Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire,
et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert.
Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger.
Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas
ma liberté de penser.
Oh, prenez mon lit, mes disques d'or, ma bonne humeur.
Les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur.
Et dont je n'ai plus rien à faire.
Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère.
Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science.
S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. La liberté de penser. Sur la table, ça fait longtemps qu'elles sont trouées.
Baissez mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas
ma liberté de penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent. Prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert.
Hey,
je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger.
Puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas.
Non, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.
Ma liberté de penser, un nouveau duo avec Florent Pagny et Amel Bent. C'est l'économie en direct, une édition spéciale soutien scolaire et solutions alternatives de logement pour seniors dépendants. Deux thèmes pour lesquels je suis toujours en compagnie de Samy Amine, chef d'entreprise CEO de la SAM Academy, soutien scolaire en maths et physique-chimie. Et Maxence Petit, fondateur président de Cosima, solution d'habitation pour les seniors en perte d'autonomie ayant besoin d'un accompagnement par des auxiliaires de vie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme chez IDFM. Focus sur vous, Maxence Petit. Alors, qui êtes-vous, Maxence Petit?
Maxence, j'ai 40 ans.
Parlez bien en face du micro, voilà.
J'ai 40 ans, je suis papa de trois enfants, trois merveilleuses petites filles. Je vis à Paris depuis très longtemps et je suis un entrepreneur de ce qu'on appelle la silver economy.
D'accord.
Ça fait 15 ans que je dédie mon activité professionnelle à apporter des solutions pour les seniors. Conscient qu'il y a un besoin grandissant pour apporter des solutions, particulièrement dans un contexte de vieillissement de la population, qui est très marqué et qui va s'accélérer dans les prochaines années avec l'arrivée des boomers dans l'âge justement un petit peu plus critique de la perte d'autonomie. Et donc j'ai développé une première entreprise il y a maintenant une petite quinzaine d'années qui avait permis de rendre accessibles les appareils auditifs au plus grand nombre, avec une société qui avait fait le choix de distribuer des appareils auditifs prêts à porter en pharmacie. Et j'ai revendu cette entreprise il y a quelques années. Et suite à ça, j'avais décidé de prendre une année sabbatique pour m'occuper de mes enfants et de profiter. Et puis, j'ai quand même pris le temps d'aller voir ma grand-mère au bout de 2 mois. Ma grand-mère qui était rentrée dans un établissement dit EHPAD. Elle avait un peu plus de 90 ans. Elle ne pouvait plus rester chez elle toute seule. Et donc, elle était rentrée dans un établissement tout à fait traditionnel. Et j'avais été interpellé par ce qui est devenu une nécessité pour moi de proposer une nouvelle solution complémentaire aux EHPAD qui sont nécessaires et qui resteront nécessaires, mais avec la volonté de créer des lieux à taille humaine puisque mon analyse post-visite de cette grand-mère, c'était que il était très compliqué dans un établissement de plusieurs dizaines de personnes fragilisées de préserver les habitudes de vie des uns et des autres. Et en ne préservant pas les habitudes de vie, on a beaucoup de mal à préserver l'identité des personnes. Et lorsqu'on ne préserve pas cette identité, la dignité part avec. Et moi, l'idée, c'était vraiment de créer des lieux de vie à taille humaine, dédiés et destinés à ces personnes qui ne pouvaient plus rester chez elles, mais en essayant de leur proposer un format de vie le plus, je dirais, classique possible. J'aime pas trop l'idée qu'on ghettoise les gens en fonction de critères relativement subjectifs. Et pour des raisons souvent foncières, lorsqu'on crée un établissement pour personnes âgées, il est rarement au cœur de la ville. En n'étant pas au cœur de la ville, en minima au cœur de la vie, quelque part, on envoie un message à nos aînés qui est de dire, bah, finalement, vous êtes un petit peu périmé, puis là, maintenant, on va vous mettre en attente de la faim. Mmh. Donc, vous allez vous asseoir dans un fauteuil et attendre que le temps passe. Et moi, à titre personnel, dans la projection que je peux faire pour mes parents, pour moi-même, j'ai beaucoup de mal à accepter cette idée que, à partir d'un certain âge ou d'un certain niveau de perte d'autonomie, finalement, on n'a plus le droit de profiter
on
de la vie.
On est mis au rebut.
Oui, un petit peu. Il y a un peu cette logique. Aujourd'hui, on est un pays latin. On a beaucoup de mal à accepter le vieillissement. La fragilité, d'ailleurs, dans son ensemble, on a tendance à chercher à la cacher.
Et puis, nos modes de vie ont changé parce que vous dites on est un pays latin, mais précisément dans ces pays latins, avant les seniors vivaient chez leurs enfants. Enfin,
dans ces pays latins et comme dans tous les autres pays du monde, on a toujours eu.
La modernisation de la vie a fait que ces méthodes n'existent plus.
Il y a plein de choses qui l'expliquent. On est dans une société de consommation qui est assez égocentrée, qui a du mal à se porter vers l'autre, même lorsque l'autre, c'est son parent.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il y a une pression immobilière qui fait que c'est très compliqué d'accueillir son proche. Chez soi, on a rarement une pièce en trop pour permettre à son parent fragilisé de venir chez vous. Donc il y a plein de raisons qui expliquent cela. C'est pas propre à la France, c'est vrai partout. Et même aujourd'hui, même dans des pays qui sont encore aujourd'hui réputés pour avoir cette structure intrafamiliale et cette solidarité intrafamiliale, je pense par exemple à la Lazie, où finalement les EHPAD et les grands groupes français, entre autres, ont commencé à se développer.
Je pensais que justement qu'en Asie ou en Afrique, c'était moins répandu.
Alors, c'est vrai, mais c'est moins vrai qu'avant. Et c'est finalement, il y a un décalage par rapport à ce qu'on connaît en Europe, particulièrement dans l'ouest de l'Europe, où ça s'est fait un petit peu avant les autres. Mais globalement, c'est une tendance de fond. Et de plus en plus, il va y avoir besoin d'apporter des solutions justement pour cette population vieillissante qui ne pourra pas rester chez elle et qui ne pourra pas non plus être aidée ad vitam par les proches. Même si aujourd'hui, on met beaucoup en exergue la nécessité de développer des solutions de maintien à domicile. Et on a raison, puisque les Français particulièrement veulent rester chez eux le plus tard possible. Il y a malheureusement un moment où ça n'est plus possible.
Oui, moi j'ai relevé des chiffres en préparant ce dossier, c'est que les 60 ans et plus devraient représenter 20 millions de personnes en France d'ici 2030, contre environ 15 millions à l'heure actuelle. Et puis le vieillissement de la population entraîne l'émergence de plus en plus de produits et de services à destination des personnes âgées.
On a vraiment, ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'on a une bombe démographique qui est en train de nous arriver en pleine figure, pour laquelle on n'est pas totalement préparé. Je vais rajouter au chiffre que vous venez de citer, un chiffre qui me paraît extrêmement significatif. En 2030, on aura 1,5 million de personnes dépendantes en France. On a 600 000 places d'EHPAD. Donc vous faites le calcul. Quid des 900 000 personnes qui ne pourront de toute façon pas être accueillies en EHPAD, qu'elles le souhaitent ou pas. C'est pas le sujet de savoir si on a envie ou pas d'aller en EHPAD. De toute façon, il n'y aura pas la place. Donc on parle beaucoup, encore une fois, du maintien à domicile. Mais quand il s'agit d'adresser des personnes dépendantes, le maintien à domicile a des limites qui sont liées à l'adaptation du logement, qui sont liées à la nécessité d'accompagnement au moins une fois, voire plusieurs fois par jour, ce qui génère un coût extrêmement important. Lorsque vous avez besoin de quelques heures par semaine, ça peut être encore soutenable. Lorsque vous avez besoin d'une intervention pluricotidienne, on arrive très rapidement à des chiffres qui sont tout à fait insoutenables pour l'immense majorité des Français. Donc il y a un besoin extrêmement important et urgent d'apporter des solutions complémentaires aux solutions existantes.
Et donc vous, Maxence, alors vous avez eu cette réflexion intellectuelle hein, après avoir visité votre grand-mère. Et il a fallu mettre en œuvre votre, votre projet. Donc vous y êtes pris comment ?
Oui, dans un premier temps, en fait, j'ai réfléchi de façon très égoïste hein, pour ma grand-mère. J'avais assez envie de la sortir de là où elle était. Ouais. Et elle n'avait pas encore réussi à vendre son appartement. Donc je me suis dit, ben, on va, il faut qu'elle retourne dans son appartement. Et puis on va mettre en place justement une permanence d'auxiliaire de vie 24 heures sur 24. Donc j'ai reçu des devis de société de service à la personne. Et en fait, le calcul est assez vite fait. Vous avez besoin en gros de 5 temps pleins pour couvrir toute la semaine.
C'est une petite TPE. Hein.
C'est une petite TPE qui, au-delà du fait de coûter entre 10 et 20 000 euros selon la région dans laquelle vous êtes, par mois, ça génère par ailleurs une charge mentale et pour la personne concernée, mais aussi pour ses proches, qui est extrêmement importante, toute la partie de coordination de ces interventions à domicile, peuvent créer une charge mentale qui devient à un moment donné relativement insoutenable pour la personne et pour ses proches. C'est ce qui d'ailleurs génère très souvent le départ du domicile vers un établissement. Les familles sont souvent assez moteurs dans cette démarche-là parce que elles sont arrivées elles-mêmes à bout de souffle, à vrai dire. Donc il y a effectivement ce besoin d'apporter des solutions concrètes qui soient en même temps peut-être plus, en tout cas sur le papier, plus attrayantes que ce qui était proposé jusqu'alors. Entre autres parce que les habitats que nous créons sont situés systématiquement en cœur de ville. Donc on est vraiment, c'est d'ailleurs la signature de Cosima, hein, la signature c'est au cœur de la vie. Alors c'est pas nécessairement en plein cœur de ville, en face de la mairie,
c'est pas isolé.
Voilà, il faut pouvoir continuer à ressentir la vie et pouvoir continuer, malgré souvent une perte d'autonomie physique qui limite les déplacements, à pouvoir envisager d'aller vers l'extérieur et aussi d'être ouvert à l'extérieur, faire en sorte que ces lieux de vie vivent par leurs habitants, par l'animation, mais aussi par les gens qui vont bien vouloir venir s'y impliquer.
Merci Maxence pour cette présentation. Je vous propose une pause et puis on découvre comment Cosima existe à partir de là. Merci.
Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Si on n'est pas sûr de voir demain, à rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, oh, oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque haine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Comme le dernier, parce
vient de loin, qu'on vient de loin.
Jour après jour,
on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers,
alors on vit chaque jour comme le dernier.
Chaque jour, chaque moment.
Et vous feriez pareil si seulement vous saviez.
Si seulement vous saviez.
Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. On vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement.
L'économie en direct et ce matin deux interviews passionnantes avec Sami Amine, chef d'entreprise CEO de la SAM Academy, et Maxence Petit, fondateur président de Cosima. Alors, améliorer la qualité de vie des personnes âgées, garantir leur autonomie le plus longtemps possible ou même allonger leur espérance de vie, je crois que c'est un petit peu, ce sont vos credos, hein, Maxence, avec cette volonté d'avoir créé des lieux de vie. Où les personnes âgées se retrouvent et retrouvent leur identité, c'est ça ?
Alors, si elles ne la retrouvent pas, en tout cas, elles la préservent.
Oui.
Et moi, ce que je veux, c'est créer des lieux de vie à taille humaine. Donc, très concrètement, on crée des appartements en cœur de ville pour 8 personnes. Ça représente à peu près 400 mètres carrés. Dans ces 400 mètres carrés, vous allez avoir une centaine de mètres carrés d'espaces de vie commune qui sont aménagés, décorés, équipés et adaptés à la perte d'autonomie. Avec vraiment l'idée de créer une atmosphère familiale. Ça ressemble peu ou prou à une grande maison familiale. Et ensuite, chaque habitant bénéficie de 30 à 40 mètres carrés d'espace privatif. Donc c'est volontairement très grand par rapport à ce que vous pourriez connaître ailleurs. Avec l'idée que les habitants vont choisir les moments qu'ils vont vivre ensemble ou les moments où ils vont être plutôt de leur côté, soit pour être seuls, soit pour recevoir leurs proches et continuer finalement à vivre le plus normalement possible. Et au-delà de cette mutualisation d'un lieu de vie qui permet évidemment de casser l'isolement social, tout l'enjeu, c'était de proposer et de mutualiser un accompagnement 24 heures sur 24 par des auxiliaires de vie qui vont permettre de sécuriser les personnes dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne qu'on a tous à accomplir, aussi bien se lever, se coucher, faire sa toilette, préparer ses repas, prendre ses repas, etc. Toute l'idée étant de faire en sorte que ce soit des lieux le moins infantilisant possible.
Oui, parce que c'est ce que vous reprochiez, hein, vous nous disiez quand vous avez rencontré votre grand-mère.
Alors c'est un constat que je fais, c'est que quand vous avez 90 personnes à gérer en même temps, nécessairement ça induit une forme d'accompagnement un petit peu industriel. En off, vous me parliez de maltraitance dans les établissements. Moi, je suis assez convaincu d'une chose, c'est que les gestionnaires et les intervenants dans ces établissements se lèvent pas le matin en se disant « Tiens, comment je vais faire pour maltraiter des vieux ?»
Non, mais bien sûr.
C'est une maltraitance organisationnelle, institutionnelle.
C'est l'organisation
qui est liée à la taille, et pour l'essentiel à la taille de ces structures. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup interrogé, je trouve, dans les derniers mois, lorsqu'on a beaucoup parlé du scandale dit des EHPAD. C'est vraiment une question de taille et de développer une capacité à faire du sur-mesure. Ce qui nous permet effectivement de préserver l'identité des personnes. C'est des choses très simples. Mais quand vous arrivez dans un habitat partagé Cosima, comme celui qui a ouvert il y a quelques semaines à Enghien, vous aviez l'habitude de vous lever le matin à 9h30. Qui suis-je pour vous réveiller à 7h30 pour prendre votre petit-déj et ensuite vous imposer un programme dans la journée ? On n'est pas en colo, c'est pas le Club Med, c'est un lieu de vie pour continuer à préserver justement le plus possible sa dignité et donc tout ce qui vient avec. L'enjeu et tout notre défi, c'est de développer une organisation qui permet non seulement de préserver ses habitudes de vie, de créer les conditions du vivre ensemble et de générer un sentiment d'utilité sociale pour chaque habitant. Cette utilité sociale, c'est un moteur de vie, à proprement parler. Ça donne envie pour soi et pour les autres avec lesquels je vis de se bouger le matin, d'aller faire éventuellement les courses quand on peut encore le faire, de préparer la nourriture. Et même, je vous disais ça en off, moi j'aime cette idée qu'une personne, même très dépendante, pourra toujours équeuter trois haricots ou éplucher une pomme de terre, même si ça prend une heure. En fait, on s'en fiche.
Peu importe, c'est quelle est une activité. Voilà,
quelle est une activité et surtout quel est le sentiment de continuer à vivre le plus normalement possible. Utile.
Alors donc, vous expliquez-nous comment vous procédez, parce que là, vous avez ouvert ces deux lieux de vie à Enghien. Où exactement Enghien ?
Alors c'est boulevard d'Ormesson, dans un immeuble neuf qui a été livré par un promoteur immobilier qui s'appelle Peach il y a quelques mois. Donc on est vraiment collé à l'école du boulevard d'Ormesson. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup d'ailleurs, parce que quand on ouvre les fenêtres, on entend la vie, les enfants qui jouent dans une cour de récréation. Et moi, je trouve ça assez génial. Et
c'est d'ailleurs un axe qui a été pris en compte, de mettre des seniors avec des très jeunes.
Oui, totalement. Alors, nous, on ne veut pas le faire de façon forcée. Moi, je trouve que toutes les idées d'intergénérationnel, c'est génial, mais souvent, c'est un petit peu forcé. Moi, je veux que les choses soient naturelles. Et typiquement, à Enghien, on a une situation que moi, je trouve assez géniale, d'une habitante qui a un peu plus de 90 ans, qui est arrivée au moment de l'ouverture en janvier. Et il se trouve que ses petits-enfants sont dans l'école à côté. Et donc, le soir, à 16h15, à la sortie de l'école, très régulièrement, plusieurs fois par semaine, ils passent voir leur grand-mère. C'est la nounou qui va les chercher et qui les ramène chez eux, qui s'arrête. Ils viennent prendre le goûter dans l'appartement. Ils passent une petite heure.
Magnifique.
Et finalement, ils ont été adoptés, évidemment, par leur propre grand-mère, mais les autres habitants aussi ont pris l'habitude de les voir passer. Et c'est ça que moi, je souhaite mettre en place, c'est créer les conditions pour que ces lieux de vie soient les plus ouverts possibles vers l'extérieur et qu'on continue à y vivre, vraiment à profiter de la vie.
Donc vous, Maxence Petit, vous faites l'acquisition d'appartements, enfin de lieux de vie, et ensuite vous les aménagez pour recevoir ces personnes.
Alors moi, mon métier, c'est vraiment la partie, je dirais, exploitation.
Oui.
Je ne suis pas investisseur immobilier. Donc on fait appel à des investisseurs qui viennent acheter les murs. Cosima devient locataire. Et met en place ensuite des contrats de sous-location avec un total de 16 habitants répartis dans deux appartements. Et au-delà de cette sous-location, je mets en place l'accompagnement donc par ces auxiliaires de vie 24 heures sur 24 et aussi par ce qu'on appelle des coordinateurs de la vie partagée qui sont présents la journée pour réunir les conditions, je dirais, d'une harmonie individuelle et collective, donc proposer des projets, en sachant qu'il n'y a jamais d'approche verticale chez nous. C'est vraiment participatif, c'est essentiellement les habitants qui vont nous faire part de leurs souhaits. On a même une question que j'aime beaucoup leur poser, qui fait partie du questionnaire avant qu'ils arrivent, qui est de savoir quel est leur rêve. Ouais. Alors c'est une question qui est très décontenancante pour quelqu'un de 90 ans, parce qu'ils estiment très souvent qu'ils n'ont plus à avoir de rêve. Et je m'amuse régulièrement à les réinterroger quelques semaines après qu'ils soient arrivés, parce que ceux qui n'en avaient pas peuvent finalement en formuler.
D'accord.
Et nous, ça peut être un levier assez intéressant aussi lorsque, parce que la vie n'est pas rose tous les jours, donc il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, et donc on peut activer quelque part des leviers en allant rechercher justement ce qui peut potentiellement encore les faire rêver ou à minima en tout cas leur donner envie. Et donc les coordinateurs sont là pour ça et par ailleurs pour coordonner les soins médicaux. On n'a pas de médicalisation à proprement parler dans les appartements. En revanche, tous les jours, on fait intervenir les médecins, les kinés, les infirmiers nécessaires en fonction des besoins des différents habitants.
Et je crois dire, j'anticipe un peu, mais je crois que on peut rejoindre Cosima. Vous lancez un appel aussi pour qu'on.
Alors, il reste encore un petit peu de place en Enghien.
Moi, je pensais que c'était plus au niveau du personnel. Non,
alors, du personnel, on travaille aujourd'hui avec une structure associative à Enghien qui s'appelle Famille Service, qui est une grosse association du 95 de services à la personne, dirigée par Vincent Gaverio. Et donc, ce sont nos partenaires d'accompagnement de la vie des habitants, puisque cette activité de service à la personne est une activité réglementée. Autant dans certains départements comme dans les Hauts-de-Seine où nous avons ouvert à Saint-Cloud il y a quelques mois, nous avons la possibilité de recruter nous-mêmes les auxiliaires de vie et de les mettre à disposition des habitants. Dans le département du 95, nous n'avons pas encore cette autorisation. Là, je peux faire un appel effectivement au département pour venir voir ce que nous faisons et nous donner l'autorisation d'opérer nous-mêmes, quand bien même aujourd'hui, nous avons la force de ce partenariat avec Famille Service qui nous permet d'accompagner au quotidien ces 16 habitants. Alors, ils ne sont pas encore 16 à Anguin. On a ouvert en janvier. On a ouvert un premier appartement dans lequel il y a déjà 5 personnes, bientôt 6, le mois prochain, enfin, dans le courant du mois d'avril. Donc, il reste de la place. On ouvrira le deuxième appartement certainement juste après l'été. Et donc l'idée, c'est évidemment, si vous êtes intéressé par ce métier d'accompagnement des personnes âgées, vous pouvez vous rapprocher de Famille Service pour la partie auxiliaire de vie, et vous pouvez vous rapprocher directement de Cosima si vous souhaitez votre rôle de coordinateur de la vie partagée.
Oui, c'est ça, ou pour soi-même, si ou ses parents, enfin voilà, ou ses grands-parents. Et donc, est-ce qu'on peut parler de prix, Maxence?
Bien sûr. Alors, le prix, il est variable, en fait. Pourquoi? Parce que le prix se décompose de trois éléments essentiels. C'est le loyer. L'accompagnement, donc la quote-part de l'accompagnement 24-24, c'est tout le principe, hein, c'est de mutualiser cet
Bien
accompagnement.
Sûr.
Donc vous payez un huitième de l'accompagnement en journée et un 16e de l'accompagnement de la nuit, puisqu'on mutualise avec l'ensemble des habitants. Et puis vous avez ensuite toute la partie alimentation et frais du quotidien. De ce montant-là, vous allez ensuite soustraire un certain nombre d'aides auxquelles vous avez le droit. La première aide, c'est le crédit d'impôt, puisqu'on est en service à la personne à domicile. Ils sont chez eux.
C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Oui,
donc, ça leur permet de déduire à peu près 600 euros, un peu moins de 600 euros par mois. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'APA, qui est une allocation versée par le APA, département en fonction de votre perte d'autonomie et de vos revenus. Et c'est là où je dis qu'en fait, ça varie beaucoup d'un individu à l'autre. On a des prix aujourd'hui entre 3 000 et 4 500 euros de reste à charge, donc vraiment ce qui sort de la poche des habitants. Et cette variation est liée justement à ce niveau de perte d'autonomie et à votre niveau de revenu. Donc c'est assez bien fait finalement, parce que ça s'ajuste, ça s'adapte en fonction des capacités,
des moyens,
des besoins et des capacités financières des personnes.
Très bien. Donc si des auditrices et des auditeurs nous entendent et veulent prendre rendez-vous avec Cosima, que faut-il faire?
Cosima.eu. C'est notre site internet, vous avez absolument toutes les informations dessus et vous pouvez demander à être contacté directement par l'un de nos opérateurs qui vous prendra en charge et qui vous expliquera l'ensemble du fonctionnement et qui vous proposera évidemment une visite. Et là, pour le coup, la visite est très ouverte. Nous, on aime beaucoup recevoir la proposition, évidemment, tient pour les familles ou pour les habitants, futurs habitants, mais aussi pour l'ensemble du tissu associatif local. Nous, on aime vraiment beaucoup cette idée que le lieu soit ouvert vers l'extérieur. Et donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour venir à notre rencontre. L'idée, c'est vraiment que Cosima réussisse à s'inclure le plus possible dans le tissu local. On est en train de travailler justement à l'intégration de nos habitants dans la Villa du Lac à Anguin-les-Bains. On va avoir un certain nombre d'activités. J'espère, là encore, un nouvel appel à lancer. J'essaye tant bien que mal d'entrer en relation avec le Lions Club et le Rotary de la ville, parce qu'on estime qu'il y a certainement des projets à mener ensemble. Et sans être caricatural, évidemment, des clubs comme le club de bridge de la ville, etc., sont potentiellement des partenaires en fait pour le futur, parce que notre lieu de vie est très grand et il peut par exemple aussi accueillir en journée des petits événements, tant que ça reste évidemment contenu en termes de nombre de personnes et que ça respecte évidemment les habitants. Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, ce lieu vive, non pas que au travers des habitants qui sont sur place, mais que l'ensemble des acteurs finalement de la cité puissent s'y retrouver et ou proposer des activités aussi aux habitants de nos lieux de vie.
Alors, en vous écoutant, je me disais, dans tous vos lieux de vie, Cosima, ne sont qu'en appartement, il n'y a pas de maison?
Alors, on a des projets en ce moment de réhabilitation de grandes maisons.
Vous y ajouteriez la dimension du jardin, enfin de l'espace.
Alors, on a la chance, dans certains de nos appartements, d'avoir des grandes terrasses ou des jardins. Donc, ce sont des lieux, voilà, qui Samy est allé voir sur le site internet et sur lequel vous avez effectivement pour chaque appartement des photos qui vous permettront de voir effectivement on tient beaucoup au fait d'avoir des surfaces extérieures. Mm-hmm. C'est très important, particulièrement pour les personnes à mobilité absolument très réduite.
Oui, oui.
Pour autant, là aussi, l'enjeu, c'est d'aller vers l'extérieur. Moi, ce que j'aime beaucoup, évidemment, comme beaucoup à Enghien, c'est la proximité avec le lac. Mm-hmm. Qui permet aussi de sortir de l'habitat. Et évidemment, lorsqu'on peut avoir un jardin, c'est absolument génial. Et en même temps, il faut faire attention avec la logique de maison. On a parlé de ghettoisation tout à l'heure. Cosima a commencé comme ça, à chercher des implantations pour construire des maisons en cœur de ville ou de village. Sauf qu'on s'est rendu compte très vite qu'à créer un lieu de vie dédié pour une population donnée, à nouveau, on allait créer une forme ghettoisation. Ouais. Alors que là, ce qui est génial dans l'immeuble que Cosima occupe à Enghien, c'est qu'au-dessus, en dessous, sur le même palier, vous avez des gens comme vous et moi qui se sont installés au moment de la livraison. Et finalement, la dynamique intergénérationnelle, là aussi, elle n'est pas forcée.
Elle est plus grande.
Elle est induite tout simplement par le fait de continuer à vivre le plus normalement possible. Et donc, vous avez des familles, vous avez des enfants qui jouent dans la cour de l'immeuble. Et donc, tout ça, finalement, ressemble peu ou prou à la vie que vous et moi avons encore aujourd'hui.
Moi, Samy Amine.
Ouais, si je peux me permettre, je trouve le projet incroyable, Maxence. C'est pas pareil, on parlait de mission, mais vraiment, je le trouve incroyable. Et je suis allé sur le site cosima.eu et moi, j'étais bluffé par la qualité des appartements. Franchement, la qualité, les photos, elles sont juste magnifiques. Vous faites quoi? Vous avez un designer? Vous avez...
En fait, on a.
J'ai vu en effet que vous mettiez un soin très particulier à la décoration de vos lieux de vie.
Hein. Oui, parce que évidemment, si je me place d'un point de vue du besoin auquel je suis supposé répondre, c'est un lieu de vie et un accompagnement.
Oui.
Donc les deux sont absolument importants. La qualité de l'accompagnement, j'en ai parlé. Évidemment, c'est beaucoup d'énergie qu'on met au quotidien pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Le lieu de vie. J'ai fixé un objectif de départ qui était de créer des lieux de vie non stigmatisants.
Ouais.
Donc vous rentrez dans un appartement Cosima, il y a globalement, hormis éventuellement un déambulateur qui traîne à droite à gauche, il n'y a pas grand chose qui vous indique que vous êtes dans un lieu pour personnes âgées. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment proposer pour les habitants eux-mêmes, qui ne se sentent pas à l'hôpital ou assimilés, mais aussi pour que les proches continuent d'avoir envie de venir régulièrement.
Ouais.
Quand vous rentrez dans un endroit relativement accueillant, vous y allez une fois, deux fois, mais vous espacez un petit peu les visites. Donc, je voulais quelque chose qui soit le plus accueillant possible. Et on fait ça pour le coup en interne. Moi, c'est au-delà de mon métier, c'est une passion de travailler sur l'intérieur, sur l'aménagement, la décoration, etc.
Magnifique.
J'aime beaucoup ça. Donc, je m'y implique beaucoup. Et puis, j'ai la chance d'avoir des équipes qui prennent le relais ensuite et qui exécutent.
Bah, félicitations.
Merci Maxence. Je suis obligée d'arrêter cette interview parce que l'heure tourne et puis ça va bientôt être terminé. Mais je me disais que vous pourriez revenir tous les deux parce que vraiment,
avec joie.
Vous parlez avec tellement bien de vos passions parce qu'au fond, voilà, vous avez mis en œuvre une passion et on sent que.
Une mission en tout cas.
Une mission, oui, une passion, une mission. Merci infiniment. Peut-être juste un mot avant de se quitter, un mot de conclusion, Samy.
Non, moi j'aimerais vous remercier vous parce que vous m'aviez déjà accueilli pour mon association et je trouve que vous faites un travail formidable. Merci de nous accueillir et de permettre à la jeunesse et la moins jeunesse de pouvoir à faire des projets de développement pour les jeunes et les seniors dans la région. Donc voilà, un petit mot pour vous.
Merci à vous. Maxence Petit.
Ben effectivement, merci à IDFM, merci à vous particulièrement, parce qu'on sait que vous portez aussi cette radio à bout de bras.
Merci à Camille qui a insisté. On était très occupés avec un renouvellement de demande de subvention. Donc
Camille, qui est effectivement notre attachée de presse, fait un super job.
Ouais.
Moi, je pense que j'ai assez parlé de Cosima. Je trouve que juste ce que fait Samy, en fait, il faut vraiment souligner. On parle beaucoup de problèmes liés à la scolarité, et je me permets aussi liés à l'immigration, liés aux cités,
oui,
etc.
Oui, oui, oui.
Et en fait, quand on entend des gens comme Samy, on se dit, mais en fait, les solutions, elles sont là.
Absolument.
Elles sont là, les solutions, et simplement, il faut juste écouter ceux qui font. On parlait en off de contacter tel ou tel député. Moi, ça m'a été donné, l'occasion m'a été donnée récemment d'interpeller justement un député. Je lui ai dit, écoutez ceux qui font. Ne vous enfermez pas dans votre assemblée et dans vos bureaux en théorisant sur ce qu'il faudrait faire. Souvent en faisant des raccourcis un peu faciles. Allez sur le terrain et allez voir des gens comme Samy qui, pour moi, sont une source d'espoir extraordinaire pour le futur, particulièrement de ceux qui sont pas forcément bien nés.
Mais c'est le, je vous retourne le compliment, Maxence, parce que voilà votre réflexion sur ces lieux de vie à taille humaine, on va dire, hein, parce que c'est ça le, c'est ça la réalité. Eh bien, bravo à tous.
Bravo
les deux,
Maxence,
merci beaucoup.
Voilà. Cosima.eu, merci beaucoup.
Et Samy Academy. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Christophe pour la technique. Merci à
Christophe.
Vous tous de nous avoir été fidèles comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez la retrouver à tout moment en podcast, disponible sur le site idfm98.fr. Mardi prochain, on se retrouve à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. D'ici là, belle journée et bon week-end.
Qu'est-ce que t'es piqué ? Tu fais que me dire ti amo. Tu te rappelles de moi ? C'est jamais fini. T'es toujours pas mal dans ton bikini. Y'a plus le feeling. Tu fais la timide. Mais j'ai vu ton snap à Santorini. Tu fais ta belle, belle, belle. T'es sur ton tel, tel, tel. Que tu m'appelles, belle, belle. Prends pas la tête, fais piano, piano. Qu'est-ce que t'es piqué? Tu fais que me dire ti amo. C'est pas compliqué. Bébé, fais piano, piano. Qu'est-ce que t'es piqué? Tu fais que me dire ti amo. C'est pas compliqué. Bébé, fais piano, piano. Bébé, ouais, j't'appelle ce soir. Y'a deux, trois trucs à régler. Moi, j'suis dans des sales histoires. Tu fais que m'appeler, je vais faire un boulot ce soir. J'ai pas encore commencé, mais ça commence à se voir. Je t'ai pas oublié, t'es bien élégante. Ah, tu m'as manqué, ou peut-être je fais semblant. Tu veux me faire payer, je vais appeler ma banque. Je crois que je vais te rembourser, ou partir en courant.
Ciao tutti.
Non, je vais pas retourner ma veste. Moi j'aime trop quand tu te vexes. Arrête un peu tous ces gestes. Fais piano, piano. Qu'est-ce que t'es piqué? Tu fais que me dire ti amo. C'est pas compliqué. Bébé, fais piano, piano. Qu'est-ce que t'es piqué? Tu fais que me dire ti amo. C'est pas compliqué. Bébé, fais piano, piano. Bébé, ouais, je t'appelle ce soir. Y'a deux, trois trucs à régler. Moi je suis dans des sales histoires. Qu'est-ce que tu fais que m'appeler? Je vais te faire un boulot ce soir. J'ai pas encore commencé, mais ça commence à se voir. Hein, t'es piqué, je vois que t'es équipé. Hein, t'es piqué, attends, prends le ticket. Hein, t'es piqué, je vois que t'es équipé. Hein, t'es piqué. Bébé, fais piano, piano. Bébé, ouais, je t'appelle ce soir.